J'aime les noirs velours, les cuirs au parfum lourd, le trou nous en retint. En revanche, je hais l'odieux café au lait, l'affreuse limonade, les bols de cidre fade, le vil Orangina, l'affreux Coca-Cola, le décaféiné et l'horrible maté.
Tous les goûts et dégoûts sont dans le rendez-vous ce soir. En direct sur France Culture, il sera question de collage, de mécanique, d'antifascisme, de manifeste, de happening et même d'hypnose. Avec Héro qui fait sa rétrospective au Musée d'Art Contemporain de Lyon, un parcours grand format pour un art du collage qui commence en 58 et redéfinit la possibilité d'une peinture d'histoire sans chronologie. Manu Farine.
Retour sur le parcours de l'inventeur du collage peint, et c'est Jean-Jacques Lebel, l'un des inventeurs du happening, qui le dit.
19h35, la session live du vendredi, et ce soir elle sera jazz et country, Manu.
Session cow-boy même, avec le groupe Myra and Mr. Mo. Ils interpréteront Magic Lady en direct dans le studio 108.
19h50, le plateau contre, avec Gérard Miller qui signe Antipathie, une centaine de chroniques qui tire à vue de Zemmour à Taddeï en passant par Elisabeth Rodinesco ou Dieudonné pour laisser le dernier mot à Freud contre le président Wilson, Manu Farine.
Autoportrait d'une bonne patte par ses antipathies, à commencer par la notion de majorité silencieuse devenue dans sa variante moderne la connerie sonore.
Mais tout de suite, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan que l'on ouvre d'abord sur le son du jour de Zoé Sfez.
Oui, la France va déposer sa candidature pour l'exposition universelle. L'exposition universelle, c'est 50 millions de visiteurs possibles.
En quelle année ?
2025.
C'est 2025.
Et pour les Jeux Olympiques, 2024, je suis favorable à ce que la ville de Paris, si elle en décide, présente sa candidature pour les Jeux Olympiques. C'est très important parce que ça sera un moment de ferveur et surtout, ça fera plein d'équipements avant, plein d'emplois, plein d'industries qui pourront se montrer.
Il va falloir convaincre Anne Hidalgo, hein, Anne Hidalgo.
Oui, parce qu'elle ne veut pas prendre de risques, mais elle sait que c'est une chance pour sa ville. Et Paris, capitale française, mais capitale culturelle du monde, c'est très important.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et on se doute qu'il date d'hier soir.
Effectivement, on ne change pas une méthode qui gagne. Alors d'hier soir, avec cette fameuse intervention télévisée du chef de l'État sur TF1, qui s'est exprimé sur beaucoup, beaucoup de sujets, et notamment sur celui-ci, la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025. La maire de Paris y tient beaucoup. Il y a deux semaines, le Premier ministre Manuel Valls s'y était dit favorable. Et voilà, François Hollande l'affirme, la France sera bien candidate. Elle ne l'a pas été depuis 1900, je le rappelle. Alors, le problème, vous l'entendez, c'est qu'il est aussi pour une candidature aux Jeux Olympiques de 2024, juste un an avant. Or, tout le monde, à droite d'abord, s'accorde sur le fait qu'il sera assez difficile de faire candidature à aux deux événements à un an d'écart. Et la toute première opposante au projet, c'est Anne Hidalgo. Après cette déclaration de François Hollande, la maire de Paris a réagi aujourd'hui dans une conférence de presse convoquée en urgence. Elle explique qu'elle ne se laissera imposer aucun calendrier sur les JO et que sa priorité reste l'exposition universelle. Alors, vous noterez quand même que François Hollande vient de le dire, il évoquait Paris, capitale mondiale de la culture et non pas du sport. C'est qu'a priori, l'expo l'emportera.
Merci, on se retrouve lundi, Zoé, pour la suite de ce journal de la culture que l'on poursuit tout de suite avec votre supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent.
Et pour ouvrir le supplément, votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Et en cette semaine anniversaire pour Canal+, 30 ans, j'aurais pu vous parler de cinéma ou de football, mais non, j'ai préféré vous parler d'une autre marque de fabrique de la chaîne, ses productions de séries télé originales, et je me suis arrêté sur la plus ancienne, la série juridico-policière Engrenage, qui revient lundi en saison 5, 9 ans après son premier épisode. Alors, si vous avez manqué le début, je vous raconte. Tout commence en décembre 2005, quand le téléspectateur découvre pour la première fois les héros d'Engrenage. Côté police, Laure Berthaud, capitaine à la DPJ, et ses équipiers Gilou et Tintin. Côté justice, l'intègre juge Roban, le magistrat Pierre Clément et l'avocate carriériste Joséphine Carlson. Immigration clandestine, réseau de prostitution, trafic de drogue, grand banditisme. Engrenage aborde tout ce qui fait mal et le fait plutôt bien.
Et alors, qui avez-vous rencontré cette fois pour nous en parler ?
Eh bien, partant du principe que pour parler mécanique, il faut avoir les mains dans le cambouis, j'ai rencontré mercredi après-midi, à son domicile, Anne Landois, la scénariste en chef de la série Engrenage, et je lui ai demandé de me décrire le fonctionnement, la mécanique d'écriture de sa série.
Alors, l'engrenage, il s'est mis en place à chaque fois de façon très différente entre les saisons 3, 4 et 5. D'abord parce que moi, j'ai changé de statut entre les saisons 3 et 5. Au début, je travaillais avec un co-auteur policier, commissaire divisionnaire, sous la houlette du directeur littéraire. Ensuite, à partir de la saison 5, moi, j'ai eu le statut de chef d'équipe, showrunner à la française, on va dire, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, en fait, j'ai à la fois donc constitué mon équipe d'auteurs, mon équipe de consultants, et j'ai chapeauté tout ce petit monde en partant d'une volonté très ferme, c'était de travailler sur la psychologie des personnages avant de travailler sur l'histoire policière. Écrire 12 épisodes de 52 minutes, c'est quand même énorme, surtout quand c'est feuilletonnant, puisque c'est comme si on écrivait un film de 12 heures. Alors évidemment, les histoires d'engrenage sont des histoires en plus très complexes. Dans chacun des épisodes, il y a environ 6 histoires différentes. Et cette mécanique qui est à mettre en place, c'est vraiment du travail d'orfèvre parce que c'est très minutieux. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on tire les lignes des personnages. On se dit, c'est ce qu'on a fait avec mon co-auteur, on a pris chacun des personnages et à chaque fois, on se disait, bon, où en est mon personnage et qu'est-ce qui lui arrive maintenant ? Et à chaque fois, ce sont ces deux questions qu'on renouvelle, mais on les pose, on se les pose 70 fois par semaine, quoi, tout le temps. Et donc, quand on a un canevas sur l'évolution de nos personnages, on travaille sur le polar à proprement parler. À partir du moment où on a ce document qui s'appelle L'Arche, qui est un document d'une cinquantaine de pages, qui explique toute la série, qui met vraiment en place l'engrenage.
C'est une nouvelle.
Voilà, c'est une sorte de nouvelle, exactement, c'est tout à fait ça. Maintenant, il faut pouvoir le présenter sous forme possible d'épisode. Donc là, on le découpe, on fait un découpage environ de 2 pages par épisode. Et ensuite, c'est là qu'entrent les auteurs qui s'emparent chacun d'un épisode. Et on travaille sur 2 épisodes en même temps puisqu'on travaille par soirée. En fait, mon rôle, c'est de défendre la vision de la série. Et ensuite, moi, je reprends, donc je corrige, je reprends les dialogues jusqu'à ce que tout le monde soit content, puisqu'après, tout le monde s'en mêle, puisqu'il y a le réalisateur, les comédiens, l'équipe technique, voilà.
Et pour ceux qui veulent s'en mêler, entrer dans l'engrenage, la saison 5 commence lundi prochain sur Canal+.
On poursuit avec votre petite revue de presse culture média de la semaine. Et lundi, la presse était éblouie.
Oui, lundi, en une des pages culturelles du Figaro, Richard Euzet, le correspondant à Rome du quotidien, mettait en lumière le nouvel éclairage de la chapelle Sixtine. 20 ans après la restauration de la célèbre fresque, après 3 ans de recherche, le Vatican a présenté aux journalistes le nouvel équipement technologique qui permet, à partir de 7000 LED à très faible consommation, d'éclairer comme il se doit la fresque, tout en évitant de la dégrader. Et mardi, c'est le quotidien La Croix qui était lui aussi enthousiaste. Des anges et des démons, des apôtres et des prophètes perdus dans la semi-obscurité sont ramenés à la lumière, écrivent-il, l'auréole du Christ, au-dessus de l'autel, resplendit d'une lumière jamais vue.
Mercredi, c'était Francophonie.
En page écran et médias, Libération se faisait l'écho dans ses brèves du communiqué des 4 syndicats francophones de Radio-Canada qui, dans une déclaration commune, ont demandé la démission d'Hubert Lacroix, PDG du groupe audiovisuel public. Selon les syndicats, les décisions prises par ce PDG qui ont entraîné la suppression de plus de 4000 postes mettent en péril, écrivent-ils, toute la production réalisée en interne et menacent, je cite encore, la culture des francophones.
Jeudi, c'était Blanqui.
Ou plutôt, bye bye Blanqui. Les Échos s'en faisaient l'écho hier. Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde, a annoncé aux salariés du quotidien un probable déménagement. Au premier semestre 2017, Le Monde devrait déménager et quitter l'avenue Blanqui pour s'installer dans un immeuble flambant neuf près de la gare d'Austerlitz à Paris.
Et aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, c'est Lucie. L'information a été communiquée par Unifrance vers 10h ce matin et a été relayée un peu partout depuis. Le film en langue anglaise de Luc Besson avec Scarlett Johansson, sorti en France cet été, est désormais le plus gros succès à l'international du cinéma français depuis 1994. Le précédent record était détenu par un film de l'écurie Besson, Taken 2, du bien nommé Olivier Mégaton. Lucie comptabilise donc plus de 52 millions d'entrées dans le monde. Alors les chiffres en détail, 5 millions en France, 16 millions aux États-Unis, 2 millions de spectateurs en Corée
du Sud.
En Corée du Sud et en Chine, me direz-vous, puisque pour Lucie, la
super... Non, j'allais même pas vous le demander.
Mais si,
allez-y.
Mais si, parce que la super-héroïne de Luc Besson, pour elle, tout commence à Taipei. Eh bien, en 10 jours d'exploitation, à peine dans 6000 salles, Lucie comptabilise 100 spectateurs par jour et par salle, soit... Vos calculettes, 6 millions d'adeptes chinois.
Ça commence à devenir intéressant. Oui.
Professeur Norman, je m'appelle Lucie. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie.
Je vous remercie.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre ou d'autres choses que vous voudriez commenter, Gérard Miller, héros ?
c'est pas très encourageant. J'ai été voir Lucie.
Ouais.
On va dire que ça ne m'encourage pas.
Vous faites partie des 5 millions alors.
J'ai fait partie des 5 ou 6 millions et ça ne m'encourage pas que la culture française en Chine soit représentée par ce film qui n'est quand même pas très bon, hein, franchement.
Qui n'est pas non plus très mauvais.
Voilà.
Qui est plutôt un très bon divertissement, non, dans ce genre.
Non, dans ce genre que je connais bien et que j'aime en règle générale, je trouve que c'est plutôt la limite basse.
Ça commence fort. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez alors, dans ce que vous avez vu récemment, Jean-Miller?
Écoutez, non, le cinéma, c'est ça quand même qui est extraordinaire. C'est ce qui m'épate d'ailleurs, c'est la grande différence qu'il y a entre le cinéma et la télévision. C'est à quel point le cinéma est plus inventif, à quel point chaque semaine, par exemple, il y a, depuis des années comme ça, au moins plusieurs films que j'ai envie de voir, que je ne trouvais pas tant. Et j'ai, par exemple, adoré dans la série des grands films d'action, j'ai adoré, par exemple, Gone Girl. Gone Girl est un film formidable, à la fois qu'on peut voir comme un film policier, comme une satire de la société américaine. Enfin, voilà. Et en même temps, vous pouvez envoyer des gens qui ne vont pas très souvent au cinéma. C'est toujours ça qui est compliqué quand on conseille un film. Est-ce qu'on le conseille à quelqu'un qui voit 10 ou 15 films par mois, ce qui est peut-être votre cas et ce qui est en partie le mien, ou est-ce qu'on conseille un film à quelqu'un qui va une fois par mois ou voire une fois tous les 3 mois? Gone Girl, ça peut convenir aux deux catégories. Ce n'est pas le cas de Lucie.
Et les séries télévisées, c'est quelque chose qui vous intéresse?
Oui, que je suis aussi. Je ne les suis pas sur plusieurs saisons. Je les suis parfois sur un seul épisode, mais j'ai réussi à peu près à en voir. Il n'y a qu'une seule série que j'ai vue jusqu'au bout,
et qui est
qui était 24 heures, parce que c'est la première que j'ai découverte. Et que du coup j'ai suivi, y compris dans sa dernière partie qui est quand même moins bonne, bien qu'il y ait eu un petit sursaut dans les derniers épisodes.
Héro, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez commenter?
Non.
Eh bien alors on va commencer tout de suite. Tout va bien, parfait.
Oui, oui. 19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau grand format avec vous, Héro, peintre d'origine islandaise, identifié à l'invention du collage peint, à une œuvre prolifique de grand format figuratif traitée en all-over, des toiles qui mixent des images de toute nature, des images scientifiques, politiques, anatomiques, empruntées aussi bien à l'univers technique que médiatique, que la bande dessinée. Une toile peut par exemple juxtaposer les cosmonautes qui ont marché sur la Lune et La liberté guidant le peuple de Delacroix. Ou alors on a aussi des proliférations d'images de comics, de nourriture, avec des détails parfois très érotique. Le Musée d'art contemporain de Lyon vous consacre une grande rétrospective. Avec quelle toile vous ouvrez cette exposition à Lyon? Quelle est la toile d'ouverture?
C'est des toiles des années 1950, quand j'étais à Florence, avec Fernando, je partageais un atelier avec Fernando Botero, le Colombien, et Jean-Jacques Lebel était là aussi. Et
Jean-Jacques Lebel,
donc. On a passé des années magnifiques à Florence à cette période-là. Je voulais dire quand même que le cinéma et les maisons de tolérance étaient au même prix. Hein. C'était très intéressant. Ça.
En Italie, les maisons de tolérance
Florence,
et le cinéma
à l'époque, oui. Et on avait quatre cinémas autour de nous et quatre maisons de tolérance. Voilà.
Et vous aviez, j'imagine, dans les deux.
On décidait entre nous, on va ce soir au cinéma, on n'a jamais été au cinéma.
Manu.
Héro, vous êtes né Gudmundsson, pour la prononciation, en Islande. À quel moment est-ce que vous êtes devenu héros, sachant que ça n'est pas le premier nom que vous êtes choisi? Quelle est l'histoire de ce nom?
Gudmundsson, c'est très difficile à porter. Ça veut dire la main de Dieu et le fils de main de Dieu. Et j'ai fait un voyage avec l'école de l'Académie de Oslo, en Espagne, et j'ai découvert une petite ville qui s'appelle Castel del Ferro. Et là, j'ai pris le nom Ferro et j'ai signé à partir de cette date-là, j'ai signé mes œuvres. Ferro, jusqu'à un moment que j'ai eu un procès avec une Argentinienne qui était nationalité française, qui avait peigné les paysages de Montmartre un peu à Outreillo. Moi, j'ai reçu les lettres avec les quatre maisons grises à gauche, et voilà. Et je lui ai envoyé les lettres. Une fois que je commençais à exposer, il s'est énervé et il m'a attaqué. Alors, on m'avait conseillé un avocat nul, absolument nul, Gambier de la Forterie, OK. Et il a dit, il y a une loi de Vichy qui a été oubliée, pas enlevée. C'est une loi qui est faite contre les étrangers, surtout les juifs en France, qui ne peuvent pas signer des articles avec le nom d'artiste, comme on dit. Voilà. Alors, le procès, je perds deux fois le procès. Et la troisième fois, c'est son avocat qui s'est tourné vers moi. En plein procès, il m'a dit, pourquoi vous n'enlevez pas l'œuvre? J'ai dit, mais c'est parfait. Alors, Et en islandais, ça veut dire erro, maintenant c'est calme, ferro, la tranquillité part. Alors, je suis calme maintenant.
Le calme est venu quand vous avez enlevé cette lettre initiale. Vous connaissez cette histoire, je crois, Gérard Miller.
Je connais erro pour une raison historique qui ne concerne que moi, c'est que je suis un enfant des années 60, un 68-art, et j'étais à la faculté de Vincennes après mai 68, où je me suis retrouvé des 69. Et il y avait un type, parmi tous les gauchistes de l'époque, tous les contestataires, un type que je trouvais incroyable, qui était Lebel. Jean-Jacques Lebel, qui était donc un artiste, qui est quelqu'un de très proche de vous, et qui, c'est, j'oserais dire presque grâce à lui que j'ai connu Héro, parce que Lebel, alors que nous étions quand même tous plus foldingues les uns que les autres, lui, il était encore plus foldingue que nous. Et chaque fois qu'on avait des idées d'action ou d'entreprise, il y avait toujours une idée plus folle qui était celle de Lebel. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est donc que ce type et ces types, puisque je vous ai mis dans le même lot, c'était d'abord des types qui étaient plutôt, si vous me permettez l'expression sur France Culture, casse-couilles, qui étaient toujours, qui étaient toujours à essayer de compliquer les choses, mais qui témoignaient d'une inventivité. Quand j'ai découvert votre œuvre Héro, j'ai retrouvé d'abord tout l'imaginaire qui était le mien, celui aussi bien des bandes dessinées que celui, par exemple, de la propagande pro-chinoise, puisque j'étais maoïste à l'époque. Et dans votre œuvre, on voit très souvent toute la propagande marxiste-léniniste, on voit Mao, on voit Castro, enfin, et pas seulement ça, on voit aussi, c'était l'époque de la guerre du Vietnam, on voit l'usage que vous avez fait de toute la propagande chinoise ou vietnamienne. Donc, je ne dis pas que j'ai été bercé par ça parce que j'étais déjà un adulte, mais je connais votre œuvre et je la connais par un bien que je trouve extraordinaire, c'est-à-dire une sorte d'irrévérence absolue, une sorte d'originalité absolument étonnant.
Héro, avec Jean-Jacques Lebel dont parlait à l'instant Gérard Miller, vous allez peindre, on va y revenir, mais vous avez aussi exposé, même collaboré à des happenings. Et je pense notamment à « Pour conjurer l'esprit de catastrophe happening » auquel vous participez en 62. Ça consistait en quoi et qu'est-ce que vous aviez trouvé dans cette forme du happening, vous ?
Lebel trouvait que c'était... qu'il y avait une nature pour ces happenings. Tu vois. C'est lui qui a commencé en Europe avec les Américains en même temps. Et je me suis lancé là-dedans. On s'est beaucoup amusé. Ça comptait quand même.
Hein? Vous souvenez d'un...
Je fais les happenings plutôt politiques, comme un happening sur Goldwater, le président américain. Et ça a été formidable.
Ça consistait en quoi, ce happening ?
Goldwater.
Qu'est-ce que vous faisiez dans ce happening ?
C'est difficile, c'est long à expliquer.
Est-ce qu'il y avait des femmes nues ?
Hein ?
Est-ce qu'il y avait des femmes nues dans cet happening ?
Il y avait des femmes nues.
Ah, bien sûr, bah c'est un happening.
Bien sûr. Spécialement notre belle Caroline Sneeman, tout nu. On est parti à Londres ensemble à faire des happenings. En Dennis House, c'est Michael White, l'impresario anglais, qui nous avait invités là-bas. Ça n'a pas été filmé, sauf une fois, il y avait Giacopetti, le directeur italien, il avait fait le Montecane, le premier film, et après il y a un deuxième film qui s'appelle Malo Mondo. Et là, une séquence qui dure 14 minutes, qui était faite au sud de Bologne, et on a fait un happening spécialement pour lui.
Pour ce film.
Voilà.
Manu.
À votre arrivée à Paris, vous avez déjà commencé à réaliser des collages qui vont notamment vous servir pour peindre des toiles par la suite. Je pense notamment au Mecha Makeup, qui vont mêler des visages de mannequins, des éléments mécaniques. Et à ce moment-là, l'une de vos sources d'inspiration, c'est le journal, la revue L'Usine Nouvelle, qui était bien plus belle que Paris Match. Hein, ça, c'est vous qui le dites à ce moment-là.
Bien reproduit.
Qu'est-ce que cette iconographie-là, justement, celle de L'Usine Nouvelle, vous évoquait à vous et qu'est-ce que ça vous permettait, Héro ?
La réalisation ?
Non, ce journal, c'est-à-dire l'iconographie de l'usine.
Les images.
Moi, j'habite Place Maubert. Et sur la rue Maître Albert, il y avait des dépôts. Un dépôt de fer, un dépôt de verre, un dépôt de papier. Et au petit matin, les clochards arrivaient avec reliés une 5 ou 6 ou 7 poussettes pour les enfants avec ces matériaux et les ventes par kilo. C'est là où j'ai découvert tous ces journaux formidable, parce que tout était reproduit à l'époque en noir et blanc. Et c'est surtout la nouvelle usine qui m'a intéressé, surtout parce qu'il y avait des très belles reproductions, étaient extrêmement bien. Et en plus, c'était imprimé sur un papier qui était mieux que les autres rêveux à l'époque.
Au début des années 60...
Ça s'est parti tout seul. Hein, le propriétaire m'a dit, vous prenez tout ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de payer. Ça a été une gentillesse.
Le tout premier collage que vous réalisez, c'est en 58, c'est à Jaffa, à côté de Tel Aviv, pour une série qui a été intitulée Radioactivity. Qu'est-ce que ce collage disait déjà que vous alliez développer par la suite? De quoi était-il question dans ce premier collage en 58, Héro, à Tel Aviv?
C'est tout, ça passe dans, comme dans un rêve. Hein, c'est surtout qu'il se trouve le matériel pour le travail, et après ça passe... Pendant que je travaille à l'école, là, je ne sais même pas qu'est-ce que je fais. Hein.
Presque en état d'hypnose.
Même quand, quand la journée va terminer, je ne sais pas, je compte les collages à la fin de la journée, mais sinon, je ne sais jamais qu'est-ce qui se passe. Je ramasse beaucoup de matériel autour de moi, surtout quand je vais en Espagne, dans ma maison à Formentera, en sud d'Ibiza. Je envoie beaucoup de matériel que je suis en train de collecter pendant toute l'année. Et je travaille là, 2 ou 3 semaines, les collages, en calme, sans téléphone, sans lettre.
Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser, Gérard Miller?
Oui, je me demande pourquoi est-ce que finalement, dans les années qui ont suivi celles qu'on évoque, les années 60, 70, pourquoi est-ce que finalement, lorsqu'un journal comme Libération a attrapé quelque chose dans son iconographie de l'époque, quelque chose de ce que vous faisiez, notamment il y avait le groupe Bazooka, qui était un groupe aussi, qui n'était... Voilà, je veux dire, il ne se réclamait pas de vous, mais enfin, il y avait une filiation évidente. Qu'est-ce qui fait finalement que vous, qui étiez en pleine activité à ce moment-là, vous ne vous êtes pas retrouvé vraiment on ne vous a pas vu vraiment dans la presse française à ce moment-là? Vous n'avez pas été finalement connecté à cette presse? Elle ne vous connaissait pas? Vous étiez trop marginal?
C'est ma mémoire est bonne. Je crois que j'avais fait l'illustration de la Libération. Une exemplaire.
Ah oui, je ne me souviens pas. Mais donc, vous n'aviez pas trop de contact avec cette presse-là,
non,
qui était très inventive à ce
pas
moment-là.
Du tout, non.
Non, c'était un autre monde.
Manu.
Ce qui frappe Héro, notamment dans le catalogue pour cette rétrospective à Lyon, c'est la façon que vous avez de parler de vos toiles, hein, c'est-à-dire que vous en faites en général une description quasiment géographique, en partant par exemple du haut à gauche ou du fond, comme si vous décriviez le processus de création lui-même. Et il vous arrive même de tenir, peut-être pas pour toutes les toiles, mais il vous arrive en tout cas de tenir le journal d'une œuvre dans un petit carnet. Qu'est-ce que ça vous permet? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de
Moi,
ce petit carnet?
Moi, j'aime bien
d'écrire absolument tout ce que vous faites.
De faire un texte sur les tableaux, pour expliquer aux gens comment il faut le garder. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, le tableau? J'aime beaucoup ça. Alors, j'essaie dans chaque catalogue de faire un résumé des tableaux que les gens... C'est plus facile à comprendre. Il faut parler de la série de voyage de Mao Zedong autour du monde. Mao Zedong, il n'a jamais voyagé. Il a fait un voyage à Moscou quand elle avait 29 ans. Et fini. Et moi, j'ai eu l'idée, je travaille sur un film, on tourne dans un film de Marcel Reiss.
De Marcel Reiss,
oui. À côté de Paris. Et là, je trouve un rouleau d'affiches. Des certains qui ont été à Pékin, ils ont acheté des affiches, et ça m'a lancé. Ça m'a lancé là-dedans. Je dis, les images sont beaucoup plus belles que les images russes, qui sont, c'est Staline avec une centrale électrique derrière lui. Là, c'est des enfants qui jouent, tout le monde est heureux, il y a des belles couleurs, et la technique est magnifique. Et je me suis lancé là-dedans. À la fin, il y a eu 160 tableaux de Mao qui est parti par la Mongolie et l'a fait le tour du monde.
Comment vous avez regardé, vous, ces tableaux sur Mao, le maoïste que vous étiez?
Écoutez, à l'époque, je pense que je les regardais avec agacement, même si je n'étais pas un affidé absolu du maoïsme officiel. Mais je me rappelle, par exemple, il y a une toile. On voit Mao, si je me trompe, à côté de la Statue de la Liberté, enfin arrivant à New York quasiment. C'est ça. J'adorais ce rapprochement-là, d'abord parce que c'était très iconoclaste et puis c'était très drôle. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser, parce qu'à l'université française où j'enseigne toujours, il y a une sorte de terreur qui est le plagiat. C'est-à-dire que tout le monde est obsédé par l'idée qu'un étudiant puisse plagier un autre étudiant ou un professeur. Votre œuvre, elle est marquée, alors est-ce qu'on appellerait ça du plagiat? Elle est marquée par des emprunts, des citations, on voit toute la culture apparaître dans cette œuvre. Est-ce que, d'une certaine façon, on peut considérer qu'en art, le plagiat, qui est tellement décrié en littérature et ailleurs, est-ce que le plagiat est finalement quelque chose qui est autorisé et plus qu'autorisé, qui est prolifique dans l'art, utile à l'art?
C'est-à-dire quand vous reprenez, par exemple, des comics de façon littérale, quand vous reprenez des images de l'histoire de l'art...
C'est le principe du collage, en fait.
Oui, oui, mais Picasso... Pas... bien sûr que c'est le principe du collage, mais ça crée du coup des œuvres qui sont plus que des citations, qui sont des œuvres décalquées d'autres œuvres.
Est-ce que vous avez eu des problèmes, justement, d'ordre juridique avec vos toiles?
Ça m'est arrivé. Héros. Ça se termine avec l'argent. Jamais avec la gentillesse. Hein. C'est dommage.
Quels sont les milieux qui vous ont fait des procès? En fait, c'est à propos de quelles images?
Il y a une histoire absolument extraordinaire. Quand j'ai eu l'expo au Pompidou, de collage dans les salles graphiques de Pompidou, on a été stupéfiés à la fin parce qu'on a eu 270 000 visiteurs. Normalement, il y a entre 7 et 8 000 qui visitent les expos dans ces salles. Et on reçoit une lettre d'une petite ville américaine. Ma fille est partie à Madagascar, au retour, elle s'est arrêtée à Paris. Et elle a vu l'expo au Pompidou. Stupéfiée. Et voit elle-même, à quelques mois, sur le sein de sa mère, et entre le sein de sa mère et elle, il y a un pistolet coupé en deux. Oui. Et le tableau s'appelle « Le pistolet » à la française. Et là, toute la famille en larmes. C'est un drame, un grand drame. Et ça continue, deux ou trois lettres. Et je demande à Pacman, qui était directeur de Pompidou à l'époque, de changer le collage contre nous. Il a dit, c'est pas possible, parce que tu as donné tous les collages à l'État. Il est enregistré, on ne peut plus le faire. Et finalement, il a envoyé une lettre à un photographe disant, elle est retirée de l'exposition, elle ne sera jamais exposée sans la vie de votre famille.
Ah oui, voilà. D'accord. Ça va jusqu'à ce niveau-là.
Et un dessinateur anglais. Il y a eu plusieurs histoires. Je trouve ça normal.
Il y a aussi une dimension qui est très intéressante, c'est la dimension physique que vous avez pour peindre les toiles. Par exemple, il y a une toile dans les années 60, en 61, qui s'appelle Les Galapagos, que vous avez travaillé en une vingtaine d'heures sans interruption. Je me demandais, avec l'âge, donc avec une force physique qui a l'air d'être considérable, mais qui a dû s'amenuiser durant les années, est-ce que vous peignez toujours de la même façon, c'est-à-dire avec toujours la même intensité, avec des séances qui peuvent durer des heures, Héros?
Je me lève à 7 heures du matin, je suis à l'atelier à 7h30, je prends le métro, contact avec les Parisiens, et je lève, normalement je quitte l'atelier vers 7h30 du soir, tous les jours, oui. Je ne vais pas au déjeuner, je mange un petit musclé à l'atelier, et tout va bien, tout va bien.
Mais nous,
là, ça fait 3-4 mois que je n'ai pas travaillé parce qu'il y a eu 6 expositions dans les différents pays du monde. Là, dernièrement, dans 3 mois, j'attends de recommencer à travailler.
Quelle est la dernière toile que vous ayez terminée?
Maintenant, je travaille sur les mangas japonais. Je trouve que c'est un dessin absolument remarquable. Je trouve que les caractères et les visages sont quelquefois plus intéressants que les visages déformés de Picasso. Et c'est la nouvelle... Je suis fasciné par le street art, comme l'art urbain, on appelle. Et parce que là, il y a des nouveaux styles absolument magnifiques dans tous les pays du monde. Hein. Et ça, c'est l'art du futur. Plus de travail, sans être payé. Ça, il faut le faire. Hein. Et ils font des magnifiques œuvres. Hein. Ça veut dire, tu arrives à une gare, il y a des murs entiers, tu quittes la gare, il y a des murs magnifiques. Alors ça, et en plus, ils n'utilisent pas les mêmes outils comme nous. Nous, on travaille comme à la Renaissance, avec les pinceaux, la trépentine, et l'huile acrylique. Eux, ils travaillent avec le spray. Tout ça est différent. Et ça, c'est un art absolument fabuleux. On commence à les exposer dans les musées, et ce n'est pas fini.
Le rendez-vous, la session.
Avant de vous retrouver, Héros et Gérard Miller, tout de suite, l'actualité musicale, la session du vendredi, Manou.
Une session ferroviaire avec Mayra et Mr. Mo, un jeune groupe né de la rencontre entre Mayra, donc une chanteuse d'origine brésilienne, et le guitariste Mr. Mo. Un groupe inspiré par la chanson américaine des années 60, par Nina Simone pour la voix et par le jazz. Un nouvel EP sort ce mois-ci à la croisée des chemins, puisqu'il s'intitule Les Ardoines, du nom très poétique de la moins poétique gare de Vitry-sur-Seine. Là, en l'occurrence, on est plus dans le sud des États-Unis. Ils sont tous les trois dans le studio 108 ce soir. Mayra est au chant, Mr. Mo au chant et à la guitare, et Paul est à la batterie. Ils interprètent en direct Magic Lady. C'est à vous.
Choose the color of her lips. Seems like each day a new flower grows up on her face. She's got dark hair with soft eyes and white socks and tiny teachers riding red bikes coming from the darkness of all streets. Rolling on the curve line looking for something to create. I'd like to be the one who stands by.
I'd like to be the one.
Please turn by.
Hey. Hey. I'd like to be the one. Please stand by me.
Kissing me a little more in private. See her body's moving, she's ringing in the air. Her body's moving, I can't wait to call her. I'd like to be the one who stands by.
I'd like to be the one
who stands by.
Hey. Hey. I'd like to be the one who stands by.
She can change her beauty. Black bloom without shape, she's still so pretty. She's the color of my black and white movie. My magic lady will no longer be with me. But our story will still this in my memory. I'd like to be the one who stands by.
I'd like to be the one.
Please stand by.
Hey. Hey. I'd like to be the one. Please stand by me.
Stands by.
I'd like to be the one.
Please stand by.
Hey. Hey.
Hey. I'd like to be the one who stands by.
I'd like to be the one.
Please stand by.
Hey. Hey.
En direct dans le studio 108 de la Maison Ronde. Leur nouvelle EP s'appelle Les Ardoines et il a paru chez X-Ray Productions. Et je donne une date de concert. Ce sera le 18 décembre prochain au Nouveau Casino à Paris.
Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau énervé avec vous, Gérard Miller, psychanalyste, professeur à l'université, écrivain, réalisateur, parfois acteur. Vous signez aujourd'hui Antipathie chez Grasset. 121 billets de mauvaise humeur, colère ou indignation, le tout illustré par la décidatrice de presse Haroux. On y retrouve des polémistes, Marc-Édouard Nabe, Éric Zemmour, Philippe Meuret. On y trouve aussi Alain Finkielkraut, entre autres producteurs ici sur France Culture, des présidents, Nicolas Sarkozy, Charles de Gaulle, Vladimir Poutine, mais aussi Michel Onfray, Frédéric Taddeï. On compte aussi quelques assauts contre les anti-lacaniens, les tous pourris, la possibilité du fascisme en Israël ou le France bashing. Par lequel vous avez commencé? Quelle a été la première antipathie que vous ayez écrite?
J'ai essayé que ce ne soit pas des antipathies trop personnelles. J'ai essayé que ces antipathies correspondent, qu'est-ce qu'on va dire aux antipathies qu'un homme de gauche, puisque je me reconnais toujours comme tel, pourrait partager avec ses semblables de gauche. Il y en aura encore quelques-uns qui doivent nous écouter dans ce pays. Ils n'ont pas tous disparu derrière le Figaro Magazine. Donc j'ai laissé de côté quand même beaucoup de ce qui fait dans notre journée des énervements. Donc, alors si vous me demandez la première, comme je notais un peu au jour le jour ce qui me venait, je pense que ce qui ce qui aujourd'hui me vient comme première fois, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas si grave que ça. C'est une discussion dans un train allant à Valence avec un homme qui jouait au loto et essayait de m'expliquer absolument pourquoi les jeux de hasard, c'était quand même formidable. Moi, je déteste les jeux de hasard. J'adore jouer. Je suis même un animateur de jeux pour mes enfants comme pour mes copains. Mais par contre, les jeux de hasard, je ne les ai jamais aimés. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une escroquerie formidable derrière, que ce n'est pas pour rien que tous les maîtres, voire tous les dictateurs de Néron à que sais-je, ont toujours organisé des jeux pour le peuple. Parce qu'il y a une, bon. Et ce type m'expliquait mordicus un certain nombre de choses qui étaient des contre-vérités absolues du point de vue des probabilités, des statistiques. Donc c'est la première chose, je me suis dit, mais ce n'est pas croyable comme la crédulité humaine est grande, puisqu'il m'a expliqué évidemment que 100% des gagnants avaient tenté leur chance, et je lui ai fait remarquer.
C'est un excellent slogan, ouais.
Voilà, que 100% des perdants aussi avaient tenté leur chance.
C'est un excellent slogan aussi.
Voilà, donc c'est la première chose que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est méfiez-vous quand même. Vous savez que quand vous jouez à l'euro million, vous avez une chance sur 76 millions. C'est-à-dire, c'est comme si vous preniez votre téléphone, vous voulez appeler quelqu'un dont vous n'avez pas le numéro, vous faites n'importe quel numéro et vous tombez dessus. Ben voilà à peu près la chance que vous avez de gagner à l'euro million.
Alors nous, on est allé pile au centre du livre, car au centre, on a toujours l'impression que c'est l'inconscient du livre. Et il y a un billet qui est consacré à l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Rodunesco, que vous qualifiez de pitoyable biographe de Lacan. Je rappelle qu'en dehors d'être psychanalyste, vous êtes aussi le frère cadet de Jacques-Alain Miller, qui est légataire testamentaire de Jacques Lacan. Le billet est suffisamment lapidaire pour qu'on puisse vous demander ce que vous reprochez sur le fond, et vous n'êtes pas le seul, à Elisabeth Rodunesco.
Écoutez,
soit comme ça au milieu du livre.
Oui, je prends ça comme une interprétation, parce que si vous me l'aviez demandé, je n'aurais pas su exactement situer ce texte dans le livre. Il se trouve que j'ai connu aussi d'un peu près Lacan, par le biais de mon frère, puisqu'il était marié avec sa fille, et qu'il n'est décédé qu'au début des années 80, donc j'étais déjà bien dans l'activité psychanalytique, et je suis frappé de l'ensemble des rumeurs, de l'ensemble des calomnies, de l'ensemble des mensonges qu'il peut y avoir dans la biographie que Rodunesco a écrit sur cet homme, qu'elle ne l'aime pas spécialement, ou qu'elle s'en soit réclamée en partie, est évidemment tout à fait une possibilité. Ce qui est très frappant dans ces biographies qu'on dit non autorisées, c'est le nombre de mensonges, de saloperies à l'occasion qu'il peut y avoir. Alors mon frère parfois monte au créneau plus fort que moi, puisque à telle ou telle occasion avec ma belle-sœur, ils ont pu même vouloir aller en procès lorsque, je ne sais pas, Rodunesco a pu dire que ma belle-sœur n'avait pas respecté les dernières volontés de son père, ce qui est quand même extrêmement douloureux pour n'importe quel enfant. Mais je crois que c'est bien de dire aux gens, en tout cas si vous lisez Rodunesco, ne pensez pas le moins du monde que vous lisez quelque chose qui est du côté de la vérité.
Manu.
Alors de psychanalyse, il en est quand même pas mal question dans ses antipathies. Vous ajoutez même un court texte sur l'antipathie de Freud à l'égard du président Wilson. Une telle antipathie qu'il lui avait consacré un livre. Pourquoi est-ce qu'il fallait en terminer par une autre voie que la vôtre et qui plus est laisser le dernier mot à Freud?
Et parce que très souvent, les gens s'imaginent que quand on est psychanalyste, quand on a donc fait une analyse, on doit ressembler à un poisson froid. C'est vrai que après-guerre, la psychanalyse s'est déplacée, disons, de l'Europe vers les États-Unis. Les psychanalystes, style ceux qui ont analysé Woody Allen, sont apparus comme des gens absolument pleins de componction, des gens ultra sérieux, médicalisés, institutionnalisés. Et on a pensé que c'était ça, les psychanalystes. Quand on regarde les premiers psychanalystes, Freud et ses copains, ou ses disciples, y compris même Jung, mais Ferenczi ou d'autres qu'on connaît peut-être moins, Grodeck, c'était des gens, je dirais, beaucoup plus foldingues qu'on l'imaginait. Et donc, j'ai voulu rappeler que ce qu'on me dit parfois, à savoir pourquoi prenez-vous des positions politiques, pourquoi êtes-vous à la télévision, pourquoi vous pouvez, à l'occasion, vous retrouver sur scène, j'ai voulu dire que, d'une certaine façon, quand on a fait une analyse, quand on a été analysé, c'est aussi pour rester fidèle à ses symptômes et à son désir. Et j'ai voulu rappeler, parce que c'est un des textes absolument ignorés de Freud, qu'il a écrit un ambassadeur américain avec qui il a écrit ça, il a écrit un livre où lui-même n'a pas hésité à témoigner de son antipathie. C'est ce qu'il explique. Donc je voulais rappeler qu'on ne pense pas que les psychanalystes, finalement, sont ceux qu'on voit parfois dans les films américains.
La psychanalyse arrive à un moment très particulier de votre parcours, Gérard Miller. À 17 ans, vous êtes aux Jeunesses communistes, puis maoïste, puis gauche prolétarienne. Vous arrêtez le militantisme à 24 ans et c'est là que psychanalyse prend le relais. Qu'est-ce que vous en attendiez à ce moment-là? Qu'est-ce que la psychanalyse a pu que le militantisme ne pouvait plus.
Ah bah c'est clair que j'ai été militant, on va dire, professionnel pendant plusieurs années. J'ai même arrêté à un moment donné, j'étais rentré à Normale Sup et puis je me suis retrouvé pendant 2 ans, alors que j'étais élève de Normale Sup, partir travailler comme vacher-porcher dans l'ouest de la France pour militer. Quand le militantisme, j'oserais dire, m'a quitté, je l'ai abandonné, mais il m'a quitté hein, effectivement à l'âge que vous dites, je me suis retrouvé complètement en l'air. Et je me suis tourné vers la psychanalyse, pas du tout pour devenir psychanalyste. Moi, j'étais philosophe de formation, je devais logiquement être prof, ce que je suis. Et donc, la psychanalyse, à ce moment-là, m'a permis de retrouver des repères. Et j'ai découvert, je connaissais un petit peu la psychanalyse par mon frère, aîné, j'ai découvert à ce moment-là un discours qui tenait, je dirais, enfin, un rapport à la vérité que je n'ai vu nulle part ailleurs. Et depuis lors, je n'ai pas quitté la psychanalyse. Je considère en effet que c'est quelque chose qui, à moi, comme à beaucoup, je ne vais pas dire m'a sauvé la vie, parce qu'on aura l'impression que c'est excessif, mais en tout cas, m'a vraiment permis de trouver ma place dans ma propre existence. Et je suis resté fidèle, finalement, à cette pratique qu'ensuite, finalement, qui est devenue ensuite la mienne. Mais au départ, c'était vraiment parce que je souffrais.
Manu.
Qu'est-ce que ça veut dire, le militantisme m'a quitté ?
Oh, bah, c'est-à-dire que c'était après, j'ai été maoïste, qu'on peut trouver invraisemblable lorsqu'on ne se rappelle pas ce qu'était cette époque, à l'époque où les Américains massacraient les Vietnamiens dans des conditions monstrueuses, à l'époque où vous aviez des Pinochets qui étaient capables d'assassiner Allende. Donc c'était une période où le monde était quand même d'une cruauté. On peut dire qu'il l'est encore aujourd'hui, mais d'une cruauté qui nous révoltait. Et donc, je me suis livré corps et bien au militantisme le plus échevelé. Et puis, à un moment donné, je me suis aperçu que ce militantisme perdait littéralement la boule. C'était peu de temps après l'assassinat d'un de mes copains, qui était Pierre Auvernet, un jeune ouvrier qui avait été tué devant Renault. Et mes copains de la gauche prolétarienne commençaient à tenir des discours qui n'étaient plus du tout ceux que j'avais envie d'entendre. Donc, j'ai eu l'impression qu'eux m'abandonnaient, si je puis dire, avant que je décide de démissionner de l'organisation. C'était pas du tout pour ça que j'étais devenu militant, je n'étais pas devenu militant pour tenir des discours aussi insipides qu'il commençait à tenir à ce moment-là.
L'imagerie politique est quelque chose qui est au centre de votre production de peintre, héros. Est-ce que de votre part, il y a eu un militantisme politique ?
Jamais. Je n'ai jamais rentré dans une partie ou été dans une réunion politique dans ma vie.
Alors même que la politique est au centre du travail.
Exactement, comme disait notre ami, c'était touché par ce qui s'est passé dans le monde, hein, surtout au Vietnam à l'époque, en Chili et ailleurs, et en Cambodge. Avec Pol Pot, on a oublié tout ça maintenant, ça va très vite.
Alors que l'histoire est très récente, notamment au Cambodge.
Oui.
Ça n'est pas si longtemps. Mais nous, Farine.
Gérard Miller est né, comme vous dites, dans une famille dépeuplée par le nazisme. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec vos tout premiers engagements politiques, justement très échevelés, comme vous dites ?
Ah oui, ça, c'est clair que. J'ai l'impression, je disais je suis de gauche, mais j'ai l'impression que je le suis depuis l'âge de 5, 6 ou 7 ans. Enfin, je veux dire, aussi loin que je remonte dans ma mémoire, j'avais un sentiment de révolte invraisemblable, puisque je n'ai jamais connu ni mes grands-pères, ni mes oncles, ni mes tantes, ni mes cousins. Et donc, quand j'étais en classe et que je voyais...
Vous le rappelez ça dès l'introduction
mais je le rappelle
du
tout
livre.
Le temps, je ouais. le rappelle tout le temps, parce qu'il faut mesurer ce que c'est que j'ai eu la chance, si je puis dire, de naître après-guerre. Mais quand je voyais tous mes copains partir chez Tata Henriette ou chez le cousin Robert, moi, je n'avais personne, que mon père et ma mère, qui sont les seuls qui ont échappé à la Shoah. Et donc, je suis né avec cette question incroyablement difficile. Mais pourquoi des hommes ont pu faire ça à d'autres hommes, à des femmes, à des enfants? Et donc, la révolte m'a habité tout de suite. Et j'ai été militant dès que j'ai pu effectivement marcher sur mes deux jambes.
La première identité, dites-vous, en 2002, c'était dans Télérama, a été cette fierté viscérale d'être juif. Juif, c'est d'ailleurs le tout premier mot qui ouvre le livre dont on parle. Comment cette fierté-là vous a-t-elle été transmise dans la famille ?
Alors c'est quelque chose que
Gérard Miller.
Je suis effectivement juif, non pratiquant et non croyant. Je suis allé un nombre très faible de fois à la synagogue, par exemple lorsque j'étais enfant, je dirais une ou deux fois, donc mes parents ne pratiquaient pas, alors que l'un de mes grands-pères m'attendit, puisque ce ne sont que des ondis, était rabbin, ou arrière-grand-père, je ne sais même plus, mais j'ai toujours eu cette identité-là, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais juif. Et je vais ajouter que c'était aussi fort que d'être français. Un jour, dans un livre de Roudinesco, d'ailleurs, sur l'histoire de la psychanalyse, qui n'était pas un aussi mauvais livre que ces livres qu'elle a écrits sur Lacan, j'ai vu à propos de mon frère et de moi, je raconte cette histoire et les gens ne le croient pas, mais je vous assure que c'est exact, j'ai vu Gérard et Jacques-Alain Miller, fils d'immigrés polonais. Je me suis dit, mais de qui elle parle ? Et je me suis dit, mais c'est vrai que je suis un fils d'immigrés. J'avais un tel sentiment d'être français que je n'arrivais même pas à m'imaginer qu'on pouvait me décrire comme un fils d'immigré. Donc j'étais aussi français que juif, aussi juif que français, et ce sont des identités très fortes. Et souvent, je suis frappé quand on demande à d'autres générations aujourd'hui de s'intégrer, je suis frappé qu'on ne comprenne pas que pour s'intégrer dans un pays, dans une république, il faut d'abord avoir une identité forte. Et si on voit ce qu'est aujourd'hui encore le drame des fils, petits-fils, arrière-petits-fils de harkis, par exemple, c'est qu'ils n'ont aucune possibilité de savoir ce qui s'est passé pour leurs arrière-grands-parents ou parents ou grands-parents. Ils ont le sentiment d'être rejetés partout où ils sont. Et tant qu'on n'a pas cette possibilité, je prends les harkis parce que c'est un exemple très frappant de non-intégration, pour le coup, tant qu'on n'a pas la fierté, est-ce que c'est la fierté ? En tout cas, le sentiment d'appartenir à une histoire. Moi, j'ai le sentiment d'appartenir à cette histoire. Et c'est ça, pour moi, être juif, c'est pas aller prier, c'est pas soutenir Israël contre vents et marées, c'est d'abord le sentiment d'appartenir à une histoire.
Et nous ?
À propos d'enfants, justement, et de transmission, pour les 40 ans de mai 68, vous aviez réalisé un documentaire dans lequel des ex-68ards étaient interrogés par leurs propres enfants. Dans la vraie vie, je veux dire dans la vôtre, qu'est-ce que vous avez raconté aux vôtres et que vous ont-ils demandé à ce sujet-là ?
Dans ce film, il y avait une de mes filles, puisque j'ai 5 enfants, et il y avait une de mes filles qui m'interrogeait comme elle interrogeait Daniel Cohn-Bendit ou Henri Weber ou Roland Castro, qui sont des gens de ma génération. Je suis frappé de voir que mes enfants, j'ai une fille, mon dernier enfant a 5 ans, donc elle est très petite, mais j'ai des enfants beaucoup plus grands qui ont largement dépassé même la trentaine. Et je suis frappé quand je parle avec eux aujourd'hui qu'ils ne sachent pas plus de choses de ce qu'était par exemple mai 68 ou mon histoire personnelle. Je me dis, tiens, j'ai l'impression que je les avais bassinés avec ça. Alors ou bien ils ont tout oublié, ou bien finalement...
si vous les avez bassinés, ils ont
tout oublié. Voilà. Ou bien j'en ai pas parlé tant que ça. Et donc, je suis frappé de voir que la transmission ne s'est pas faite forcément par le rabâchage, qu'elle s'est faite peut-être, puisque j'ai l'impression qu'ils ont tous une sensibilité de gauche, bien que ce soit plus complexe que ça pour certains d'entre eux. Je me dis qu'on transmet aussi aux enfants quelque chose à travers la façon simplement dont on leur raconte des histoires sur le Père Noël ou des histoires qui ne sont pas directement celles qu'on a vécues. Je suis un donneur de leçons très souvent, peut-être dans les médias, mais avec mes enfants, je crois que je ne suis pas vraiment un donneur de leçons.
Alors, comme à tous nos invités, on vous a demandé de nous soumettre un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi, Gérard Miller.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala. Si tu veux danser avec moi, ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas. Je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi, je veux mourir sur scène.
Interprétation de ce son, pour quelle raison ?
Du plaisir de passer Dalida sur France Culture, vous me permettez.
Ça va, ce n'est pas un tabou, vous savez.
Non, je sais bien, mais c'est un petit plaisir que je m'offre devant. Et voilà, on évoquait avec Héros. Enfin, il évoquait la bande dessinée, les images. Moi, j'adore ce qu'on pourrait considérer comme les arts populaires. J'adore le cirque, j'adore la bande dessinée, j'adore les chansons populaires. J'aime Joe Dassin, ma fille de 5 ans connaît toutes les chansons de Joe Dassin. Et lorsque je me dis quels sont les personnages célèbres que j'aurais aimé rencontrer quand on fait ça comme un jeu, alors il y a effectivement des gens, je ne sais pas, j'aurais adoré rencontrer Picasso, que j'aurais pu rencontrer puisque Lacan le connaissait bien, mais que je n'ai pas rencontré. J'aurais adoré rencontrer Alfred Hitchcock, mais j'ajoute, j'aurais adoré rencontrer Dalida. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un que j'aurais pu rencontrer puisque j'ai été dans les médias assez longtemps, mais malheureusement après sa mort. J'aime ce qu'elle représentait, j'aime sa chanson, j'aime cette façon effectivement étonnante pour elle de suivre la mode, un peu comme Johnny a pu le faire, c'est-à-dire chaque fois quelque chose passait, elle attrapait ça. Donc je trouve que ce son-là, j'aurais pu vous mettre l'International ou la Marseillaise, qui sont deux des chansons que j'ai apprises à mes enfants. Les seules chansons que j'ai apprises en entier à mes enfants, c'est l'International et la Marseillaise. Mais on chante aussi du Joe Dassin et du Dalida à la maison et j'avais envie de rappeler cet aspect-là peut-être de ce que je suis.
Puisque vous rappelez que vous aimez les formats populaires, je crois que vous pratiquez l'hypnose et la magie. C'est quoi votre tour le plus fameux ? Tour de Gérard Miller, c'est quoi en magie ?
En magie...
Mais vous êtes vraiment adepte
amateur.
De ça ?
Ah, amateur. Oui, je suis toujours, je le dis toujours, je suis allé récemment à l'anniversaire d'un petit garçon qui est ami de la famille pour, dans son anniversaire, faire l'animation. J'ai quand même 10-15 tours que je peux faire. Et le tour quand même actuellement dont je suis le plus content, c'est celui de la main coupée. C'est-à-dire, ça je l'ai acheté. évidemment, je ne l'ai pas inventé. Hein. Je n'invente pas les tours, hein. je les achète ou je les
achète. Vous les achetez, ouais.
Ah, bah, oui.
Et alors ça consiste en quoi?
Bah, la plupart des tours sont achetés d'ailleurs. Les magiciens inventent très peu de tours. C'est très compliqué d'inventer un tour. Bah, ça consiste à prendre c'est une sorte de petite guillotine, ce qui est terrible évidemment et ce qui fait très peur. Ça vient toujours à la fin du spectacle. Vous mettez à ce moment-là par exemple une carotte et puis vous faites tomber la guillotine et la carotte est coupée en deux. Puis ensuite vous mettez votre propre main, voire la main d'un enfant s'il y en a un de 4-5 ans qui a envie d'y aller. Vous mettez la main, vous mettez la carotte en dessous et la guillotine tombe, coupe la carotte et pas la main. Voilà.
Vous devez avoir un succès phénoménal.
J'ai un succès auprès des enfants phénoménal.
Vous allez l'inviter Manou parce que vous avez des enfants.
Je suis pas sûre.
Ah non, monsieur.
C'est le coup de la carotte, ça l'a effrayé.
Je le présente de telle façon. Non, puis après, je change l'eau en vin, par exemple. Vous savez que le capitaine Haddock n'a jamais réussi à faire ce tour. Hein. C'est un célèbre moment dans Tintin où il essaye de reproduire. Moi, je sais changer l'eau en vin, par exemple. Mais voilà, bar mitzvah, communion solennelle, mariage, vous n'avez qu'à demander.
Gérard Miller et compagnie.
J'adorerais faire ça. J'adore jouer.
Avec l'argent, jamais avec la gentillesse. Hein. Et c'est pas fini.
Merci à nos invités. Héros, votre rétrospective, c'est au Musée d'art contemporain de Lyon jusqu'au 22 février. Le catalogue d'exposition vraiment formidable a paru aux éditions Somogy. Gérard Miller, Antipathie, c'est aux éditions Grasset. Et puis Mayra et Mister Now, le EP Les Ardoines est disponible sous le label XC Productions. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Demain, il faudra attendre lundi, de la danse folklorique et des enfants, mais sans Gérard Miller, avec Philippe Ken et Alexandro Schiaroni. Des annonces, Hippolyte ?
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manou Farine, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote. Journal de la Culture et Supplément Week-end, Zoé Sfès et Benoît Lagagne. À la prise de son, Jean-Guilain Meige, Alex Dang et Léa Le Foll. À la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Il est 19h53, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, à 19h54, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée et bon week-end à tous.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.